l'Allemagne tarde à payer. La Chambre des députés, élue au lendemain de la guerre, comporte une forte majorité de catholiques, anciens combattants. Ils n'ont qu'une obsession, que l'Allemagne paie sa dette de guerre. L'après-guerre, c'est aussi une vague de spéculation qui se déchaîne pour éviter les méfaits de la dévaluation des monnaies. C'est enfin le retour de Poincaré qui tente de faire appliquer le traité de Versailles. L'économie est détruite, la production inexistante, l'industrie anéantie. La situation financière est devenue très difficile. Pourtant, la vie va reprendre son cours et la politique retrouver ses habitudes. Aux élections de 1919, la majorité se situe à droite et au centre. Le bloc national qui en est issu est appelé la Chambre Bleu Horizon, par allusion à la couleur de l'uniforme qu'emportaient presque tous les députés. Ce sont pour la plupart des catholiques qui n'imaginent pas, à la fin du mandat de Poincaré, en 1920, élire un président athée, même s'il s'appelle Clémenceau. Celui-ci se retire alors de la vie politique le 18 janvier 1920. Après un voyage triomphal aux États-Unis en 1922, il écrit plusieurs livres avant de mourir en 1929 à Paris. Le successeur de Poincaré s'appelle Paul Deschanel. Il est élu le 18 février 1920. Mais bien vite, on se rend compte que l'homme élégant et affable cache un malade bizarre qui se croit persécuté du monde entier. Il est bientôt remplacé par Alexandre Millerand.
Le président est nu, ou presque. Un soir de mai 1920, Paul Deschanel prend le train en direction de Montbrison, où il va inaugurer un monument en compagnie de plusieurs ministres. Au milieu de la nuit, sans que quiconque s'en aperçoive, il quitte son wagon-lit et tombe sur la voie. On le retrouve le lendemain matin, en caleçon, chez un garde-barrière. Un peu plus tard, le 10 septembre, il décide de se mettre presque nu à Rambouillet afin de se baigner dans les bassins. 10 jours plus tard, il démissionne.
La dette de l'Allemagne est énorme envers la France. Elle a commencé à la payer, mais avec une telle irrégularité qu'il est permis de se demander si un jour elle ne sera pas atteinte d'une amnésie qui lui serait salutaire. Le bloc national, les Bleus Horizons qui ont souffert dans les tranchées, sont particulièrement attachés au paiement de cette dette. Ils ont pour leitmotiv « l'Allemagne paiera ». Aristide Briand, un socialiste de négociation et d'apaisement, rappelez-vous la séparation de l'Église et de l'État, élu pour un an président du Conseil en 1921, tente un rapprochement avec l'Allemagne, à l'indignation du bloc national. Dans le même temps, le franc ne cesse de se dévaluer. On achète alors tout ce qui peut représenter un placement sûr, de l'or, des bijoux, des terres, ou moins sûr, des Van Gogh, des Utrillo, des Valadon, des Modigliani, et qui peuvent se révéler des investissements aux très heureuses retombées. Le monde de l'argent s'expose avec une telle obscénité dans les casinos et tous les lieux de plaisir que toutes les tendances politiques s'en offusquent. Poincaré, l'ancien président, le Lorrain rigoureux, est alors rappelé aux affaires. On sait qu'il va appliquer fermement et même davantage le traité de Versailles. Cette fermeté se traduit par la décision d'occuper la région de la Roure et de ses riches minerais. Ainsi, l'Allemagne paiera sous la forme d'un gage productif. Mais les ouvriers allemands, face à cette décision, se mettent en grève. Ils ne veulent pas travailler seulement pour la dette de guerre et pratiquent une résistance passive. Poincaré décide alors de les faire remplacer par des ouvriers français qui, inévitablement, doivent affronter au cours de heurts violents et sanglants les Allemands qui les empêchent d'accéder sur leur lieu de travail. Et finalement, un nouveau calendrier du paiement de la dette est établi. Tout s'apaise avec les accords de Locarno, en Suisse, le 16 octobre 1925, où l'Allemagne, la France et la Belgique échangent la promesse de ne se livrer à aucune attaque ou invasion, bref, de ne plus se faire la guerre. La paix définitive semble devoir s'installer, lorsque, sur la proposition d'Aristide Briand en 1926, l'Allemagne est admise à la Société des Nations.
La naissance du Parti communiste. L'égalité. Le rêve de théoriciens comme Babeuf, Fourier, Marx. Le rêve se réalise enfin, à partir de 1917. Le rêve, c'est du moins ce qui est annoncé, car cette centralisation s'accompagne d'une dictature politique et économique difficile à supporter. Et ceux qui la refusent subissent des persécutions. Mais vu de loin, ce système que Lénine, puis Staline, les dirigeants communistes, s'efforcent de rendre présentable aux yeux du monde, aux yeux de nombreux intellectuels français aussi, qui reviennent enchantés de leur voyage en Russie soviétique avant d'en revenir, rassemble de nombreux espoirs. Ainsi naît en décembre 1920, à Tours, le Parti communiste français. Il va trouver son soutien essentiel dans le monde ouvrier. Maurice Thorez en devient le secrétaire du bureau politique en 1930.